OK, des chauves-souris, donc, qui seraient porteuses du virus ou de virus au pluriel proche de celui qui est à l'origine de la COVID. André Veillette est médecin et immunologiste. J'ai de la misère avec ce mot-là. Immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Bonjour, docteur Veillette.
Bonjour.
Bon, parlez-nous-en un petit peu, là. Il semble que l'origine se précise, là.
Oui, je pense que vous avez raison. Ça a l'air de se préciser de plus en plus. Je suis pas certain qu'on va être certain à 100% un jour, mais je pense qu'on s'approche de plus en plus de l'évidence qui indique qu'en fait, c'est pas un virus qui aurait été généré dans un laboratoire, donc c'est pas échappé, mais peut-être un virus qui originait de la nature, originait plus spécifiquement de souris, de chauves-souris. Ouais. Dans des cavernes. Et puis, comme vous avez dit, il y a une étude qui a été publiée récemment ou rapportée récemment, c'est pas publié encore, là, mais c'est sur le site du journal Nature qui a évalué la présence de coronavirus dans les chauves-souris de cavernes au Laos, plus particulièrement le nord du Laos, qui est très proche de la Chine. Et puis, on trouvait certaines nouvelles souches de coronavirus qui sont très, très, très similaires aux souches qui est représentée par le virus de la COVID, avec seulement un ou deux changements là dans les acides aminés dans la portion de la ce qu'on appelle la spicule ou le spike protein là, qui se lie aux cellules pour rentrer dans les cellules. Donc c'est très 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 similaire. Et puis les gens évidemment disent que bon, c'est pas une preuve à 100% parce que c'est pas identique, mais ça suggère de plus en plus que le virus probablement est venu de la nature, possiblement est venu d'une chauve-souris, puis peut-être une chauve-souris qui venait là, dans le bout du Laos, du nord du Laos ou dans ce coin-là très proche de la Chine.
Puis comment un virus de chauve-souris trouvé dans une grotte du Laos se serait-il retrouvé par la suite à Wuhan, là, en Chine, là où l'épidémie a commencé?
Ben, c'est peut-être pas il y a peut-être eu d'autres étapes, d'autres virus entre les deux, là, qui étaient des modifications du virus qui a été détecté, qui sont peut-être ailleurs. Mais on sait que les chauves-souris ont un énorme nombre de virus. C'est un peu comme des sacs de virus volants. Il y a même ici, nos chauves-souris sont comme ça. Et puis, la raison pour laquelle les virus aiment ça rester dans les chauves-souris, c'est que les chauves-souris n'essayent pas de les détruire, puis les virus ne causent pas de troubles non plus. Alors, les virus peuvent être propagés d'une chauve-souris à l'autre, incluant les coronavirus. C'est là où on pense que le SRAS serait arrivé, ou même le MERS. Donc, ça partirait possiblement de chauves-souris. Après ça, soit les chauves-souris directement ont contacté les humains, des morsures. Bon, comme ça, c'est plus la rage, mais possiblement les excréments ou l'urine, ou possiblement à travers un autre animal qui aurait soit mangé une chauve-souris ou a été mordu par une chauve-souris. Par exemple, on parlait du pangolin dans ce cas-ci pour la COVID-19. Donc, c'est possible qu'il y a une étape intermédiaire qui implique un autre animal qui, en bout de ligne, aurait été mangé par un humain ou aurait mordu un humain ou aurait été en contact avec les excréments, l'urine avec un humain, puis là, l'humain l'aurait possiblement attrapé.
Le pangolin, il mange des chauves-souris?
Je ne sais pas s'il mange des chauves-souris. Je sais qu'il y a des gens qui mangent des chauves-souris dans certains pays asiatiques, mais je pense que ce serait plus une question de se faire mordre par la chauve-souris ou d'avoir été en contact avec les excréments ou avec le sang ou avec, évidemment, le sang, peut-être que ça, c'est parce qu'ils ont essayé de manger, ou avec l'urine. Parce qu'évidemment, c'est des animaux sauvages, alors c'est possible qu'ils rentrent en contact à ce niveau-là. On parle d'événements qui sont très, très rares. C'est pour ça qu'on n'a pas des pandémies de ce type-là tous les jours. Mais une fois que ça arrive, puis que ça se propage après ça à quelques humains, c'est là où on peut avoir une situation analogue à celle qu'on vit présentement avec la COVID-19.
OK. Autre sujet dont je voulais vous parler, c'est cette étude israélienne à l'effet que, grosso modo, là, un enfant sur 10 souffrirait de la COVID longue ou en tout cas conserverait des symptômes post-COVID. Un enfant sur 10, c'est vraiment beaucoup, ça.
Oui, c'est beaucoup. Il y avait d'autres études auparavant qui suggéraient 1 sur 20. Après ça, c'était 1 sur 3. Puis après ça, c'était 1 sur 15. Alors, je ne sais pas c'est quoi le chiffre. C'est un peu difficile à mesurer ça parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'enfants qui sont asymptomatiques. Alors, on ne sait pas qui ont eu la COVID. Et puis, deuxièmement, souvent, c'est des symptômes qui ne sont pas très spécifiques. L'enfant est fatigué. L'enfant a mal à la tête ou l'enfant tousse. Et puis, dans le cas de l'étude d'Israël, il disait aussi, évidemment, qu'il y a beaucoup de stress dans la société. Alors, il y a des gens qui disent qu'une partie de ça, c'est peut-être dû au stress induit par la situation de la COVID-19, la pandémie, et non directement à l'infection des enfants. Mais on sait chez l'adulte définitivement que ça existe. Donc, je pense que ça existe définitivement aussi chez les enfants. Il va falloir déterminer c'est quoi le chiffre. Est-ce que c'est 1 sur 10? Est-ce que c'est 1 sur 20? Est-ce que c'est 1 sur 5? Je pense qu'on va avoir besoin d'études additionnelles, mais c'est une raison de plus pour faire attention avec les enfants, s'assurer qu'ils n'attrapent pas la COVID, parce que c'est possible qu'ils pourraient développer ces symptômes de longue COVID. C'est quelque chose qu'on reconnaît, qu'on a reconnu assez récemment. Donc, on a besoin de plus de données, mais je pense qu'en l'absence de données idéales, parfaites et complètes, ben, il faut continuer à faire attention avec les enfants, s'assurer, je pense, qu'ils ne l'attrapent pas.
Et s'assurer que lorsqu'on aura un vaccin, qu'on les fasse vacciner, hein?
Ça, je pense que ça va être un point très important à évaluer. Bon, là, on va avoir les résultats bientôt, je pense, là, des résultats de Pfizer. Ils vont être examinés par Santé Canada, après ça, CCNI, puis la CIQ. Je pense qu'une des questions, évidemment, chez les enfants, ça va être la question des myocardites qu'on a déjà décrite au niveau des adultes, surtout les jeunes adultes. Alors, je pense qu'ils vont faire très attention, voir exactement est-ce qu'il y a des évidences de ça ou non, puis regarder aussi ce qui se passait. C'est passé avec les myocardites, avec les enfants de 12 à 17 ans, chez qui on a donné beaucoup plus de vaccins. Et je pense que s'il n'y a pas d'évidence de problème au niveau de la sécurité là, du vaccin,
l'innocuité.
De la sécurité du vaccin à ce niveau-là, l'innocuité du vaccin, ben, je pense à ce moment-là qu'il y aura probablement une recommandation en effet de le donner aux enfants pour éviter la contagion, pour éviter le risque de longue COVID, puis éviter aussi de transmettre aux gens vulnérables. Parce que si tous les enfants vont attraper la COVID, ça veut dire qu'ils vont rentrer à un moment donné en contact avec des gens qui sont non vaccinés, ils vont possiblement leur donner, puis ils vont aussi rentrer en contact avec grand-papa, grand-maman, dont la protection commence à diminuer parce que possiblement la deuxième dose commence à s'affaiblir. Donc, je pense qu'il y a toutes sortes de raisons de le faire, mais il faut que ça soit s'assurer que ça soit sécuritaire. L'autre question qui va arriver, c'est évidemment l'équité d'accès au niveau de l'international. Alors, est-ce qu'on devrait vacciner des enfants qui sont pas nécessairement assujettis à aboutir souvent à l'hôpital, mais qui peuvent développer la longue COVID? Est-ce qu'on devrait vacciner ces gens-là ou vacciner les gens dans les autres pays? Ça, c'est des sujets qui sont un peu trop complexes pour moi. Là, moi, je peux donner des avis scientifiques, mais pour les notions de santé publique internationale ou politique, là, je pense que ça s'est rendu compliqué. Mais c'est certainement une discussion qu'on va avoir aussi au niveau du public.
Une décision qu'on aura à prendre éventuellement. André Veillette est médecin immunologiste. Ah, je l'ai eu. Institut de recherche clinique de Montréal. Vous étiez membre du groupe de travail sur la vaccination contre la COVID-19, André. Merci beaucoup.
OK, c'est moi qui vous remercie.
À la prochaine.